Frères et sœurs, vous savez, j'aime toujours quand il y a des circonstances qui viennent me rappeler mon humanité. J'ai oublié une annonce importante que je voulais vous faire ce matin. Elle concerne un texte, un bouquin qui est rédigé par notre bien-aimé pasteur, frère Jean-Max Destiné. Donc ça, je peux le lire sans les lunettes. Il s'intitule « Le silence de Dieu ». Alors, je viens vous présenter ce livre d'abord en signe de remerciement, d'action de grâce à notre Dieu pour ce qu'il a fait à travers son serviteur en lui donnant la possibilité de rédiger ce texte que je crois, je ne l'ai pas lu encore, je n'ai même pas lu un mot à part le titre parce que ce n'est que ce matin que je l'ai reçu. Mais je pense que déjà j'anticipe que je serai béni à travers la lecture de ce texte. Et le pasteur Destiné m'a demandé de vous parler également d'un autre aspect de cette annonce. Merci beaucoup. À savoir, de l'encourager en achetant un bouquin. Le silence de Dieu qui coûte $20. Pasteur Destiné a envoyé 7 livres. À cet égard, il est un peu comme moi. Il ne veut pas vous demander trop. Mais normalement, de ce que j'ai appris, Pasteur Destiné a une relation avec cette église qui pourrait faire en sorte qu'il en envoie 20. Pas vrai, frères et sœurs? C'est un homme de Dieu, les pasteurs. Et Dieu leur fait la grâce, comme chaque chrétien, de ne pas être exigeant, d'être mesuré dans leurs demandes. Je pense que c'est la raison pour laquelle il a envoyé 7 livres. Mais je pense qu'il y a plus de 7 bien-aimés qui voudraient encourager Pasteur Destiné à l'oratoire. J'ose penser cela. Alors, les 7 sont entre les mains de notre bien-aimé frère Joannès. Il les a. Si vous voulez, je vous encourage dans le Seigneur, étant donné que vous êtes le peuple de Dieu, vous allez en penser à encourager l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, ce n'est pas seulement l'Église ou la prédication, l'œuvre de Dieu. Les prédicateurs ici le savent. Pas juste les prédicateurs, les sœurs achètent des livres aussi pour étudier ensemble. Nous, les hommes, nous achetons des livres aussi pour étudier ensemble, qui ne sont pas nécessairement la Bible. Ils sont basés sur la Bible. Donc, nous les achetons, c'est autant de moyens de nous former. Est-ce qu'on est là, frères et sœurs? Donc, quand Dieu fait la grâce à des hommes et des femmes de pouvoir rédiger des bouquins de ce genre, le peuple de Dieu, dans la mesure de ses moyens que le Seigneur lui donne, est invité, est encouragé à les encourager. Alors, c'est ce que je vous demande de faire. Je pense que les 7 livres vont partir, comme on dit, comme du pain chaud. Et si le stock parvient à s'épuiser, je communiquerai à Pasteur Destiné pour lui demander de nous en envoyer davantage. Sœur Joanne, qu'est-ce que tu me dis là? Tu me dis de monter le volume? Non, hein? Ok. Alors voilà. Sur ce, on va passer à l'autre étape, frères et sœurs. Dimanche dernier, je vous ai entretenu, frères et sœurs, sur ce passage que je disais à la blague dans mon préliminaire, même dans mon liminaire. Je disais à la blague qui était peu connue de beaucoup de gens de l'Église, et le texte de Jean chapitre 2, le verset 1 à 11, qui relate une manifestation sublime de la gloire de Dieu dans le cadre de ce texte, de ce thème que je traite pour l'année. Rendons gloire à Dieu ou glorifions de Dieu dans tous les aspects de notre vie. Et là, la méthodologie consiste à parler d'abord de la réalité de la gloire de Dieu. C'est ce que le Seigneur m'a fait la grâce de faire, de commencer à faire depuis un certain temps. Et je vous parlais de ce miracle que Jésus a accompli à Cana en Galilée. Parce que le verset 11 du texte précise clairement qu'il manifesta sa gloire. Vous vous rappelez, frères et sœurs, le texte dit « il manifesta sa gloire » et nous nous sommes intéressés dans le Seigneur à comprendre en quoi le Christ a-t-il manifesté sa gloire à travers eh bien, ce miracle extraordinaire qu'il a réalisé à Cana en Galilée. Et je vous avais expliqué que Jésus était invité en compagnie de sa mère. Ah, Fredio est arrivé. Alors, Fredio, tu pourras parler après. Jésus est invité à ces noces, à ce festin, à cette fête, en Cana, en Galilée, avec ses disciples. Et là, tandis que tout le monde mangeait, buvait, jasait probablement, s'amusait. Eh bien, tout à coup, la parole de Dieu nous informe à travers l'évangéliste Saint Jean que le vin manque. Et j'ai attiré votre attention sur ce que ça représente pour ce couple qui se mariait ce jour-là. De manquer de vin. J'ai expliqué que ça peut entraîner en réalité dans la Palestine de l'époque, dans ce coin du monde où le mariage eut lieu. Cela pouvait attirer, eh bien, la honte, le déshonneur sur cette famille, dans la mesure où le mariage représentait quelque chose d'extrêmement important pour les gens. Et j'ai dit aussi que le fait que le vin manquait pouvait entraîner aussi la division, beaucoup de problèmes dans cette famille. Et les parents de la fille avaient le droit, pouvaient, s'ils le voulaient bien, tenter un procès contre le jeune homme, dans la mesure où c'était lui le responsable de fournir, d'alimenter le festin en vin et en boisson, frères et sœurs. Et c'est à ce moment-là que je vous ai montré l'intercession de Marie auprès de son fils pour lui dire « ils n'ont plus de vin ». Et Marie, ayant intercédé, le Christ a accédé à son intercession, à sa demande, en faisant quelque chose pour ceux qui étaient là, pour la famille. Il a pourvu, eh bien, au manque de vin qui était arrivé subitement. Et en termes d'application praxéologique, pratique de la parole de Dieu, eh bien, je vous ai dit que le vin que Jésus donne, le texte dit que c'était un vin en abondance. Et pour ceux qui lisent la parole entre les lignes, nous nous sommes aperçus ensemble que le vin que Jésus donne était au-delà de l'espérance, des besoins. Autrement dit, il a donné plus que nécessaire. Et j'ai parlé des calculs et mathématiques, plutôt arithmétiques, mais en quelque sorte mathématiques, qui nous ont conduit à cette conclusion. Jésus a donné beaucoup de vin, du vin en abondance. Et j'ai expliqué que le fait d'avoir donné du vin en abondance encourage le peuple de Dieu à dépendre de la grâce de Dieu dans les temps de disette, dans les temps de pénurie, dans les temps de carence, de quelque nature que ce soit ça là. Et j'ai attiré aussi votre attention sur le fait que l'ordonnateur du vin, cette espèce de majordome, de responsable, de chef cambise, en créole. Eh bien, lorsqu'il a reçu le vin que Jésus a donné, dans son travail, en tant que responsable, il a tenu à le goûter avant de le servir et à l'assemblée, aux gens, aux convives. Eh bien, ayant goûté le vin, il s'est aperçu que c'est la première fois de sa vie qu'il a goûté un vin aussi bon. Et l'application était celle-ci, à savoir que Jésus donne non seulement beaucoup, mais il donne le meilleur. Ce qu'on voit parfois, c'est que lorsque c'est beaucoup, c'est souvent pas bon. Mais je vous dis que Jésus, dans sa majesté, dans sa toute puissance, dans sa gloire, transcende ses clichés. Il transcende ses clichés. Il donne beaucoup. Et le fait que ça soit beaucoup n'empêche pas que ça soit le meilleur. Et j'ai attiré l'attention du peuple de Dieu sur le fait que ce n'est pas un hasard, si Jésus donne beaucoup et meilleur, parce qu'il est le meilleur. Le meilleur ne peut venir que du meilleur. De la même manière, le pire ne peut venir que du pire. À comparer avec Satan, le diable, qui est le pire, il donne le pire. J'ai dit aussi au peuple de Dieu que, en manifestant sa gloire, Jésus n'a pas attiré tout le monde à lui pour autant. Il est venu à Cana en Galilée avec ses disciples. Il est reparti avec ses disciples. Les serviteurs qui étaient là, qui ont vu la manifestation de sa gloire, ne l'ont pas suivi, du moins de ce que le texte nous révèle. Ils ont vu le miracle de Jésus. Ils en ont bénéficié, certes, mais ils n'ont pas suivi Jésus. Eux, les disciples, ils ont vu le miracle et ils ont vu la gloire. Le but de Jésus, savez-vous, ce n'était pas d'accomplir un miracle. Certes, c'est un Dieu de miséricorde, c'est un Dieu de gloire, donc de miséricorde. La gloire, miséricorde de Dieu, la gloire, grâce, s'est manifestée à Cana en Galilée. Bien sûr que Jésus n'aime pas voir les gens dans le désarroi comme cela, sans intervenir, sans faire quelque chose. Mais le but de Jésus, quand il a démontré, quand il a manifesté sa gloire, c'était qu'il soit connu comme Dieu, qu'il soit connu comme le Messie, comme l'envoyé de Dieu. Mais combien l'ont suivi, frères et sœurs, un peu comme aujourd'hui? J'ai expliqué que le fait par le Fils de Dieu de réaliser ce miracle à Cana en Galilée rejoint parfaitement les promesses de Dieu faites à travers l'Ancien Testament et dans ce cas précis à travers Ésaïe chapitre 25, les versets 5 à continuer. Je vous ai lu tout cela. Le prophète Ésaïe a promis un temps où le peuple de Dieu aurait beaucoup de vin à sa disposition et de vin vieux. Et j'ai expliqué que dans la Bible, le vin vieux, le vin clarifié, qui n'a pas de substance, d'aucune forme de particule là-dedans, le vin bien filtré, eh bien, symbolise le vin du royaume de Dieu, le vin messianique. Vous vous rappelez? J'ai expliqué que le vin que Jésus donne à Cana en Galilée était un message qu'il avait envoyé aux Juifs pour leur dire que le vin dont Ésaïe a parlé, moi je le donne. Et le fait que Jésus a demandé que les vases, les jarres, les récipients qui étaient là soient utilisés pour ce miracle en dit long également. Parce que, comme je vous l'ai expliqué, et Saint Jean le mentionne très clairement, sans ambiguïté, Saint Jean dit que ces vins étaient destinés à la purification des Juifs. Voyez-vous? Donc, Jésus était en train de leur dire que mon sang, ce vin symbolisant mon sang, eh bien, remplace l'eau de purification externe que vous aviez l'habitude d'utiliser dans le temps. Et que c'est par mon sang que vous serez lavés de vos souillures, de vos péchés, de vos iniquités. J'ai expliqué tout ça au peuple de Dieu. Et enfin, je vous ai dit que Ésaïe n'a pas promis seulement du vin de qualité, du vin clarifié, du vin vieux, en annonce, en prophétie, du vin du royaume, du vin que le Messie, le Fils de Dieu, allait lui-même apporter. le vin d'espoir, le vin d'espérance, le vin de paix, le vin de joie, le vin de sécurité, le vin de toute forme d'abondance. Et j'ai dit que Ésaïe a également prophétisé que, eh bien, non seulement il apportera le vin, mais il apportera la vie également par-dessus la mort. C'est-à-dire qu'il remplacera non seulement l'eau de purification par son sang, mais il remplacera également la mort par la vie. Et j'ai fait un peu de théologie avec vous pour vous dire que si quelqu'un m'objecte que dans Jean chapitre 2, Saint Jean ne traite pas de la mort, il ne mentionne même pas le mot mort, je vous ai dit que vous avez raison, vous avez bien lu, vous avez bien compris. Toutefois, en Jean chapitre 4, les versets 50 à continuer, nous voyons que Jésus est revenu à Cana en Galilée pour donner l'autre aspect de la promesse, pour donner la vie à ce fils, eh bien, de l'officier romain qui était au bord de la mort. Vous vous rappelez, frères et sœurs? On avait couronné le tout en vous disant que le peuple de Dieu qui rencontre, eh bien, Dieu dans la manifestation de sa gloire, et Jean il nous explique clairement que ce qui s'est passé à Cana en Galilée était quelque chose qui annonçait ce qui allait se passer encore dans le futur. Regardez bien. Ésaïe annonce quelque chose qui allait se produire. Ça s'est produit. Ça s'est annoncé. Autrement dit, il y a ce qu'on appelle le processus d'accomplissement de la prophétie d'Ésaïe. Et Jean nous dit que, eh bien, l'histoire qu'il a racontée, et par rapport au miracle que Jésus a opéré à Cana en Galilée, n'était pas fini. Jean nous parle, eh bien, d'un temps, d'un festin, d'un jour, d'une fête, qu'on appelle dans la Bible le festin des noces de l'agneau. Vous vous rappelez? Et voyez-vous, Jésus utilise Jean lui-même pour revenir sur ce thème, pour parler de festin encore. Et, Paul, et Jean nous dit qu'à ce festin de mariage, le peuple de Dieu criera « Alléluia » comme les jeunes viennent de le faire. Et nous avons commencé à crier « Alléluia, Alléluia ». Et dans la noce de l'agneau, nous allons crier encore davantage « Alléluia ». Car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Le règne qu'il a annoncé, le règne qu'il a inauguré, il est entré dans ce règne. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui la gloire. Car les noces de l'agneau sont venues, son épouse s'est préparée. Lorsque Jésus a donné du vin en abondance et du vin de qualité à Cana en Galilée, vous savez ce que Jésus a fait? Jésus a pris fête et cause pour les deux personnes qui se mariaient ce jour-là, mais il a pris en particulier, doublement fête et cause pour le monsieur. Est-ce qu'on est là? Parce que c'est lui qui était responsable de pouvoir en vin à la cérémonie. Vous savez ce que Jésus a fait? Jésus a pris sa place. Jésus a endossé son problème. Jésus a endossé sa honte pour le glorifier. En sorte que ce n'est pas par hasard si Jésus, eh bien lorsque dans les noces de l'agneau, c'est Jésus qui sera l'époux et l'Église sera l'épouse. Ça va là? Vous comprenez le symbolique? Aujourd'hui, frères et sœurs, n'a marché tout pis devant. Je vais vous entretenir sur une autre histoire aussi intéressante que l'histoire que nous avons lue la semaine passée. Intéressante, oui, mais aussi aussi extraordinaire en termes de démonstration, de manifestation, de mise en évidence de la gloire de Dieu. Aussi extraordinaire. Même si le mot gloire n'est pas mentionné dans ce passage, on est toujours dans le même schéma, dans le même et dans la même ligne, frères et sœurs. Ce texte se trouve dans Jean chapitre 5, qui représente d'ailleurs le troisième miracle de Jésus. Jean chapitre 5, versets 1 à 9. dans Jean chapitre 5, versets 1 à 9, Jésus va continuer de faire la démonstration de la réalité de sa gloire. Je vous entretiens aujourd'hui, comment, depuis quoi? Depuis 4 dimanches bientôt, sur la réalité de la gloire de Dieu. C'est de ça que je veux continuer à vous parler. Je demande à Régie, eh bien, de noter ça pour nous. Je ne sais pas à combien vous êtes rendu, Régie. La réalité de la gloire de Dieu 1, la réalité de la gloire de Dieu 2, la réalité de la gloire de Dieu 3. Merci. Attends. Ok, on est rendu à 4. Non, on est rendu à la réalité de la gloire de Dieu 4 dans l'enregistrement. C'est ça. C'est ce qu'on va faire, frères et sœurs. Le texte nous dit, je ne sais pas, oh, c'est affiché. Après cela, frères et sœurs, il y eut une fête des Juifs. Et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu couché et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus. Prends ton lit et marche. Et la parole de Dieu nous dit au verset 9. Aussitôt, cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. Bien, le Seigneur bénit sa parole. J'aime dire, depuis mon arrivée ici, qu'il y a de ces textes, si un prédicateur a fini de les lire sans les prêcher, ce n'est pas grave. Le peuple de Dieu a déjà tout compris. Ce texte en est un de ceux-là. Tout est clair. Il n'y a pas beaucoup de théologie à faire, à part quelques lectures entre les lignes, par souci de théologie biblique. C'est un devoir aussi du prédicateur de le faire. Mais explicitement, tout est clair. Jésus nous dit, Jean est allé de Galilée à Jérusalem. Parce que la dernière fois, il était à Galilée. Vous vous rappelez, frères et sœurs? Il était à Galilée. C'est de là qu'il se rendait à Jérusalem. J'ai parlé de l'historicité des miracles de Jésus. C'est important pour nous de tenir compte de cet aspect-là, l'historicité des miracles de Jésus. Pour qu'un fait soit réputé historique, ça prend deux choses. Un temps, un lieu. Est-ce qu'on est là, frères et sœurs? Un temps, un lieu. Ceux qui ont étudié la littérature française le savent. Et Jean n'est pas avare de détails. Il continue pour nous dire pourquoi Jésus est-il passé de Galilée à Jérusalem. Il dit c'est pour célébrer une fête. Mais il n'a pas dit de quelle fête il s'agit. À chaque fois qu'il mentionne des fêtes, plus tard, il précisera de laquelle il est question. Mais ici, il nous dit pour célébrer une fête. Sais-tu la fête de la Pentecôte? On ne sait pas. Sais-tu la fête de la Pâque? On ne sait pas. Mais ce qu'on sait, c'est que le Sauveur a quitté Galilée pour aller à Jérusalem pour célébrer une fête. La Bible nous dit, frères et sœurs, que une fois arrivé à l'intérieur de Jérusalem, de la ville, Jésus se rend à la piscine de Bethesda. Nous allons parler de ça un peu plus tout à l'heure. Il se rend à la piscine de Bethesda. Il y avait au bord de la piscine de Bethesda des malades, toujours maladie, des paralysés. Le texte parle de grand nombre de malades, aveugles, boiteux, paralytiques, donc infirmes. Un peu comme le monde d'aujourd'hui. Quand nous circulons, quand nous voyageons, nous voyons plein de gens, nous côtoyons plein de gens, nous rencontrons beaucoup de gens. Il y en a qui sont bien portants physiquement, mais spirituellement qui sont malades. Ils sont malades. Je crois que ce grand rassemblement de malades, de paralytiques, de paralysés autour de la piscine de Bethesda constitue un miroir de ce qu'est le monde aujourd'hui. Un monde de malades. Un monde d'estropié, un monde de boiteux, d'aveugles. Qu'est-ce qu'ils faisaient là? Ils attendaient, je vous dis, Jean ne se fait pas avoir. Ils attendaient le mouvement de l'eau, frères et sœurs. Parce que la croyance populaire veut que, eh bien, un ange vient de temps à autre pour faire bouillonner l'eau, pour la remuer, pour l'agiter. Un peu, vous vous rappelez quand nous avons nos sorties récréatives, quand là on se baigne, puis là on ouvre le... Vous vous rappelez là? Et les jeunes qui courent, parce que là, à peu près ça là, comme image. Pour remuer les eaux, frères et sœurs, de la piscine. Et en remuant les eaux de la piscine, celui qui a la possibilité, la capacité, la rapidité, l'agressivité même pour plonger dans cette piscine, dans ce bassin, dans ce réservoir en premier, c'est lui qui est guéri, tant pis pour le reste. Est-ce qu'on est là, frères et sœurs? Une situation de sauve-qui-peut, ça ressemble pas mal à ce que nous voyons dans le monde aujourd'hui. Sauve-qui-peut. Nous ne savons pas dans quelle mesure cette croyance s'était avérée, vraie ou fausse. On ne le sait pas, mais c'est ce qu'ils croyaient. Et pour nous, les Haïtiens, ça ne devrait pas être difficile de comprendre cette logique, cette croyance, ce réflexe qu'un ange viendrait remuer l'eau, la faire bouillonner, et celui qui tombe dans la piscine en premier, il est guéri. Mais ce n'est pas juste nous, hein. Dans d'autres pays, ça existe aussi. Et pensons par exemple à Sodo. Serge, tu ne connais pas Sodo. Pensons à Sodo. Hein. C'est la même chose. Tous les gens, quand ils vont à Sodo, ils sont malades. Ils viennent des États-Unis, du Canada, disons de la diaspora haïtienne, de la France, parce qu'ils pensent que quand ils vont se baigner là, ils vont être guéris. Si vous vous cassez la tête pour comprendre, qu'est-ce que ça, cette affaire de piscine, un ange vient. Mais il y a cette croyance aussi de nos jours. Le texte nous dit cela, frères et sœurs, que ça soit vrai ou faux, mais c'était ça l'espérance des gens. Ils croyaient qu'une fois allés là, s'ils ont seulement la chance de plonger dans la piscine en premier, dans le bassin, le réservoir en premier, ils auront la guérison. Si c'est vrai ou pas, ce n'est pas notre problème, mais c'est ce qu'ils croyaient. Autrement dit, la piscine de Bethesda, c'était un lieu d'espoir. C'était un lieu d'espérance. C'était un lieu, frères et sœurs, où les gens étaient convaincus qu'ils pouvaient retirer la santé. Le texte nous apprend aussi, frères et sœurs, que en allant vers ces gens malades, Jésus, au moins une fois de sa vie, ne semble pas intéressé à la cause de tout le monde. Est-ce que c'est clair, frères et sœurs?
Peut-être pour une fois de sa vie, il ne semblait pas intéressé à la cause de tout le monde.
Et tout l'enseignement du texte est là d'ailleurs, dans ce détail. Jésus est allé vers un homme. C'est vers un homme qu'il est allé parmi cette multitude, cette marée humaine de gens couchés au bord de la piscine de Bethesda, plus particulièrement sous les portiques, les cinq portiques. Il y a les malades, il y a les boiteux, il y a les aveugles. Et Jésus est attiré par seulement, du moins cette seconde-là, cette minute-là, ce jour-là, ce mois-là, cette année-là, cette saison-là. Laissez-moi vous dire, vous avez votre jour, hein? Cette église a son jour. Ça se peut que Sego ne voit pas son jour, mais elle a son jour. Ta famille a son jour. Le jour où Dieu la visitera. Il est attiré par un homme. Il aime les autres, bien sûr. Mais cette journée-là était la journée de cette famille, de cet homme-là. Puis un point, c'est tout. Il vint au milieu de la foule désespérée. Il a choisi d'aller vers un homme. Et conséquemment, il a choisi de guérir un homme. Conséquemment. Qui était-il? Un homme qui était malade. La Bible ne révèle pas sa maladie. Le verset 7 nous aidera à comprendre qu'il était peut-être infirme. Parce qu'il dira qu'il ne peut pas y aller seul. Apparemment. Ce qu'on sait, c'est que cet homme est malade depuis 38 ans. C'est important aussi de comprendre cela. Il est malade depuis 38 ans. Verset 6 à 9. Régis, verset 6 à 9, si c'est possible. Jésus, l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps. Le sachant ici est un sachant surnaturel. C'est une connaissance surnaturelle. C'est un savoir surnaturel. C'est la gloire omniscience de Dieu qui est en action. Et cela depuis l'éternité. Est-ce qu'on est là, frères et sœurs? Qui ont chanté Tibob de Nazareth, chante qui dit Jésus qu'on aime là, n'en désire m'a espéré. Jésus qu'on a là, l'église. Tes amis qui font semblant de te supporter peuvent même pas te voir. Tandis que Jésus, il sait que tu es là. Et la gloire de Jésus fait en sorte que même s'il y a des milliers de gens là, il ne s'est pas trouvé de cible. Il est venu pour un homme malade depuis 38 ans. Il est allé vers l'homme. Il ne s'est pas trouvé de cible. Vous voulez-vous faire des erreurs? Non, non. Il sait exactement à quelle enseigne cet homme logeait ce jour-là. Il est venu pour cet homme-là. À quelle enseigne loges-tu? Tes camarades de promotion ne le savent pas, mais Jésus le sait. Depuis 38 ans, sachant qu'il était malade depuis longtemps, c'est une autre information importante. 38 ans, c'est 4 décennies moins 2 ans. Je suppose que c'est de l'arithmétique là. Ça va, je ne me suis pas trompé. c'est 4 décennies moins 2 ans, ça va? C'est-à-dire 38 ans, 3 fois, c'est 4 décennies moins 2 ans. Depuis presque 40 ans. Je vous avais dit, dans le miracle que Jésus a opéré, dans la manière dont il a manifesté sa gloire à Cana en Galilée, il a transcendé les façons de faire habituelles du vin. Il n'a pas eu besoin de raisin ce jour-là, vous vous rappelez? Il n'a pas eu besoin d'aucun processus de fermentation. Mais ici, c'est la même chose. Le temps n'est pas un obstacle pour Jésus. Jésus n'est pas intéressé par le problème de temps qu'il problème dans là. Ce n'est pas un problème pour Jésus. 30 ans, ça va. 40 ans, ça va. 50 ans, ça va. Jésus n'est pas lié par le temps, il est éternel, il est un Jésus de gloire. Amen. Et le Fils de Dieu lui dit, pour activer sa foi, Jésus lui dit, veux-tu être guéri? Veux-tu être guéri, l'Église? Jésus repose la même question en ce moment. Veux-tu être guéri? Veux-tu être débarrassé de ce problème, de ce tracas? Veux-tu être débarrassé de l'orgueil, de ce péché qui mine ta vie? Ça fait longtemps dans l'évangile, on t'a grandi, on t'a été un gros dame missionnaire, on t'a été un gros homme missionnaire. Le péché mine ta vie. Veux-tu être guéri pour de vrai? Veux-tu grandir pour de vrai comme église? Je sais que tu le dis. Sergo, tu dis que tu veux être transformé. Je sais que tu le dis, mais le veux-tu vraiment? Veux-tu être guéri? Et il y a des commentateurs, des étudiants de la Bible qui blâment la manière de répondre du monsieur, du malade. Moi, je ne trouve. J'ai lu le texte hier, je pleurais. Ma femme, mes enfants dormaient. Il était 3 heures. Je n'étais pas en train de préparer mon message, non, parce que habituellement, mes messages sont préparés 2 semaines à l'avance. Mais je relisais le texte, puis je pleurais. Je pleurais 2 fois. Quand le monsieur dit ça là, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. Je pleurais là. Et je pleurais aussi quand la Bible dit il y avait des malades, un grand nombre de malades qui étaient touchés, des paralytiques, des aveugles. Puis je revois le monde, je regarde le monde, et certaines églises, et puis je suis attristé. J'ai pleuré comme un enfant, hier matin, disons ce matin, à 3 heures, autour. Frères et sœurs, c'est ici, c'est là. C'est mon dernier espoir. C'est là que je pense être, que je crois pouvoir être guéri. Ça fait 38 ans que je suis là. Je fréquente ce lieu depuis 38 ans. Depuis 38 ans, je n'ai jamais eu la chance de tomber dans la piscine, frères et sœurs. Et il n'y a pas d'autre issue que cette piscine, frères et sœurs. Ce n'est pas si grave. C'est grave, hein? Mais ce n'est pas si grave. Ce qui est grave, frères et sœurs, c'est que je n'ai personne pour me jeter. Et je sais que je n'ai personne pour me jeter. Ce n'est pas ce matin qu'il sait qu'il n'a personne pour le jeter dans l'eau. Mais il vient quand même parce qu'il n'a pas d'autre recours. Les gens qui disent que Jésus te demande si tu veux être guéri, dis oui ou non. Ils ne comprennent pas. Il dit oui. Il dit oui. Comment vous voudriez-vous, Seigneur, que je ne veuille pas être guéri quand je suis ici pour plonger dans la piscine puis je n'ai personne pour m'aider? C'est ce qu'il dit. Je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. C'est peut-être pas grave. Le pire, c'est que chaque fois que j'essaie de m'y plonger, d'autres plus agressifs, plus bien portants que moi, ils passent en avant de moi. Je vous dis, ça ressemble pas mal au monde. Tout le monde a pris la fée. Un autre descend avant moi, depuis 38 ans. Il y a de ces miracles que Jésus opère, il y a de ces manifestations de sa gloire que Jésus effectue. Il parle, comme dans le cas de l'officier romain, il parle, il va, il s'en va, il revient. Mais ici, Jésus dit, je paraphrase, tu n'as personne pour te jeter. Depuis 38 ans, tu viens ici. Tu n'as personne pour te jeter. Bon, moi, je bois le lago dans la piscine. Non. Et ce n'est pas une vieille piscine superstition, ça. Bois le lago. Bois le lago dans la piscine, la vraie piscine. Bon, moi, je bois le lago moi-même. Et quand je décide de te larguer là-dedans, il n'y a personne qui te m'empêche. Votre pasteur dit, Jésus, je suppose, paraphrase, dit qu'il bois le lago là-dedans. Mais ce n'est pas vrai. Jésus parle même la guerre là-dedans. Il dit, mon pas le guerre sans piscine, ça. On va le quitter dans l'île, non? Ou même pas la guerre? On va le quitter dans l'île, non? Il va vouloir entrer? Bon, ma bon, après, il y a un dans l'île, sous soleil, je vois, mon pas la guerre. Ça va la frère et sœur? L'oratoire, écoutez bien. Les familles de l'oratoire, la jeunesse, les soldats, les diacres, qui l'est encore? Qui ligne encore? Puis le monde a fait une concurrence là-dedans. Qui ligne encore? Allez où est ligne? Saleté est là, vous ne pouvez pas montrer là-dedans. Bon, moi, je vais vous sans lit. Soit du lit. Soit de l'avant. Soit du rang. Soit de la ligne. Lève-toi. Prends ton lit. Et marche. Verset 9, aussitôt l'homme fut guéri, il prit son lit et se mit en marche. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. S'ouvre les pieds, moi je ne me plains jamais. S'ouvre les pieds, si tu veux te plaindre, plains-toi. C'est interdit dans la Bible, mais moi je ne me plains jamais parce que je sais en qui je crois. Ça va frères et sœurs? Je sais en qui je crois. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Dieu a manifesté sa gloire. Omniscience. Il a manifesté sa gloire. Puissance. Il a manifesté sa gloire. Miséricorde, compassion, grâce. Et aussi, il a manifesté sa gloire. Miséricorde, sa gloire, souveraineté, frères et sœurs. J'ai prêché la fois passée. J'ai expliqué la Bible en main, à l'appui, au peuple de Dieu, que la manifestation de la gloire de Dieu est associée à la parole de Dieu. Vous vous rappelez? L'autre jour, dimanche dernier, comment le Christ, le Fils de Dieu, a-t-il manifesté sa gloire proposition, sa gloire commandement, sa gloire parole, sa gloire volonté? Il a dit, prenez ces vases et remplissez-les. Vous vous rappelez, frères et sœurs? Et on a blagué un peu avec ça. On a vu que c'était une consigne absurde. Mais les gens, ils ont obéi à cette consigne absurde. C'était une consigne insensée à l'humain, illogique. Mais les gens ont obéi. Il a fait la même chose ici. Je n'ai personne pour me jeter là-dedans. À chaque fois que je tente de m'y plonger, quelqu'un devance, il arrive avant moi. Et cela depuis 38 ans, au lieu de me dire qu'il va me charger et me déposer là-dedans, il me dit prends ton lit et marche. Chita. Papa, frère et soeur, moi, j'étais chita. Vous comprenez que cet homme-là, il veut me niaiser. Il a le. Il s'est levé. Papa, frère et soeur, quand tu veux du changement, fais tout ce que Dieu te dit de faire, d'accord? Et tu vas changer. Ta famille va changer, ton église va changer. Fais tout ce que Dieu te dit de faire. Même si c'est illogique, fais-le. Obéis à la parole, obéis à ton pasteur, obéis à tes diacres, obéis à tes enfants, obéis à tes frères et sœurs. Mets la parole au centre de ta famille, de ta vie, de ta vie, et tu vas changer pour de vrai. Prends ton lit et marche. Il ne m'a pas dit de plonger dans la piscine. Il ne m'a pas pris. Il ne m'a pas occupé. Il veut me niaiser. Ce n'était pas le cas. Il était guéri. Je pense que
l'homme s'est rendu compte de sa guérison quand il a commencé à marcher. Voilà.
Il a manifesté sa gloire à l'endroit de cet homme, frères et sœurs. Il n'a pas utilisé les eaux de la piscine. Il transcende même les belles piscines, même piscine ça, même ce réservoir, il le transcende. Voir vieux piscine superstition. Il transcende ces choses-là. Il n'est pas passé par ce chemin pour guérir cet homme, frères et sœurs. Je comprends, à la lumière de ce texte, frères et sœurs, que le Dieu que nous servons est un Dieu des opportunités. C'est ça. C'est le Dieu des opportunités, le Dieu de l'espoir, le Dieu de l'espérance. Comme ça, je le dis très clairement. Cet homme a trouvé une opportunité qu'il n'a jamais trouvée auparavant. Jamais. Jamais. De la même manière qu'il a donné le meilleur des vins à Cana en Galilée, ici, il a donné la meilleure des situations à cet homme, frères et sœurs. L'opportunité de refaire sa vie. L'opportunité de développement personnel. L'opportunité de développement social. Parce que, avec Dieu, avec la santé, eh bien, on pourra se débrouiller, frères et sœurs. Ça va là? Voilà pourquoi ceux qui sont paralysés dans leur cœur, soit dans le monde ou dans l'église, ceux qui sont paralysés dans leur esprit, dans leurs pensées, ceux qui sont dans l'amertume, dans le monde ou dans l'église, ceux qui ont des conflits dans leur cœur, des conflits irrésolus, non résolus, ceux dont la vie spirituelle ou matérielle, ou financière, et autres, relationnelles, maritales, et dysfonctionnelles, ils ont intérêt à se confier ce matin même dans les bras de Jésus. Jésus va tout régler ça. Il va tout régler ça. Supposons qu'il tarde à le faire, comme c'était le cas pour cet homme depuis 38 ans. Il va être avec toi jour après jour pour t'aider à supporter, en sorte que même quand tu essaies de t'y plonger, puis les gens te barrent la route, tu ne te décourageras pas pour quitter ces lieux. Ah, s'il avait quitté ces lieux, peut-être que Jésus le repérerait quand même. Mais il a persévéré jusqu'à temps que Jésus vienne à sa rencontre. Ça va, frères et sœurs? Je vous avais promis un peu de théologie là. Je vous avais promis de vous revenir sur la réalité de cet homme. Pourquoi c'est lui seul parmi cette multitude qui a intéressé le Christ? On va régler ça tout de suite. Pourquoi c'est lui seul qui a intéressé le Christ? Pourquoi? Le Christ est-il rendu au cœur fermé par rapport à certaines personnes, puis au cœur ouvert par rapport à d'autres? Non. La guérison de cet homme et lui seul cette journée-là. C'est ce qu'on appellerait un exemple, une image, une illustration, frères et sœurs, de la guérison de l'Église. Est-ce qu'on est là? Il faut qu'on comprenne. C'est une illustration de la grâce souveraine de Dieu, de la gloire grâce de Dieu. Ça commence à s'en venir. La guérison de cet homme, c'est une illustration, une image de la gloire grâce, de la gloire élection, de la gloire miséricorde de Dieu, de la gloire compassion du Fils de Dieu. Si Jésus a choisi de guérir cet homme parmi tant d'autres qui étaient là, frères et sœurs, il a un message, un enseignement à donner à tout lecteur attentif. Voilà pourquoi quand nous lisons la parole, nous devons, avant de lire la parole, nous agenouiller pour demander l'éclairage du Saint-Esprit de Dieu dans la lecture. Sinon, nous risquons de perdre l'essentiel de la lecture du texte, frères et sœurs. Alors, remarquez que cet homme n'a pas cherché Jésus. Avez-vous remarqué cela? Il n'est pas allé vers Jésus. D'ailleurs, il ne connaissait même pas Jésus. Il va finir par découvrir l'identité de Jésus seulement plus tard, quand il va le rencontrer au temple de Jérusalem. D'accord, frères et sœurs? Il n'a pas cherché Jésus, mais Jésus est venu vers lui. Vous ne voyez pas la doctrine de l'élection ici, frères et sœurs? Vous ne voyez pas la loterie de l'élection ici? C'est tout simplement que Dieu a décidé de lui faire grâce. Et ce n'est pas par hasard que ça s'est passé à Bethesda. Parce que Bethesda ou Bethsaïda signifie maison de miséricorde. Est-ce qu'on est là, frères et sœurs? Ah, pas sans raison. Paul, en traitant de la doctrine de l'élection, dit ceci, en parlant dans Romains 9, verset 15 à 16. En effet, il dit à Moïse, je ferai grâce à qui je veux faire grâce. J'aurai compassion de qui je veux avoir compassion. Et Paul applique la parole en disant, cela ne dépend ni de la volonté, ni des efforts de l'homme, mais de la grâce de Dieu. Et Paul va en rajouter dans Éphésiens, chapitre 1er, les versets 1er à 14. Nous terminons ici. Il dit, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Et il dit pourquoi au verset 6? À la louange de la gloire de sa grâce. À la louange de la gloire de sa grâce. Voyez-vous? Il nous a élu dès avant la fondation du monde, verset 6, à la louange de la gloire de sa grâce. Au verset 11 à 12, il dira, ayant été prédestiné, suivant la résolution de celui qui opère toutes choses, d'après le conseil de sa volonté, comme quand c'était le temps pour lui de guérir cet homme, afin que nous servions à la louange de sa gloire. Il va dire ça dans 14 versets, il va répéter ça 3 fois, frères et sœurs. Le but pour lequel vous êtes église, vous êtes peuple de Dieu, c'est à la louange de la gloire de Dieu. Comme quand nous disons, glorifions Dieu dans tous les aspects de notre vie, nous savons de quoi nous parlons, frères et sœurs. À la louange de sa gloire. Et au verset 13 à 14, je vais vous laisser seulement le 14, il dit, lequel est un gage, en parlant de Jésus, du Saint-Esprit, pardon, de notre héritage, pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Notre élection, c'est pour la louange de sa gloire. Notre salut, notre rédemption, c'est pour la louange de sa gloire. Ainsi, peuple de Dieu, que devons-nous faire? Nous devons glorifier Dieu dans tous les aspects de notre vie. Dans mes relations, je glorifie Dieu. À la maison, je glorifie. Dans mon mariage, je glorifie Dieu. Dans tout, Paul dira, même dans le manger et le boire, je glorifie Dieu. Ça va faire des heures. Donc, en tout, en de grandes comme en de petites choses, nous n'avons nulle autre chose à faire que de glorifier Dieu parce qu'il nous a élus dès avant la fondation du monde. Comme il a choisi dès avant la fondation du monde de guérir seulement cet homme parmi cette multitude. Eh bien, il nous a choisis dès avant la fondation du monde pour être ses enfants d'adoption, pour être membres de son royaume. Et en retour, Paul nous donne le but. Ne nous méprenons pas sur le but. C'est à la gloire de Dieu, frères et sœurs. Êtes-vous prêts à continuer comme de vaillants soldats, de vaillantes soldates, de l'église de Jésus-Christ à glorifier votre Dieu dans tous les aspects de votre vie? Amen. Je vous le souhaite. Qu'il en soit ainsi pour nous tous et que le Seigneur nous bénisse, frères et sœurs.